Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Le président des États-Unis, Joe Biden, a confirmé hier, lors d'une allocution télévisée, la date butoir du 31 août pour terminer la mission de l'armée américaine en Afghanistan, à condition que le nouveau régime afghan n'entrave pas l'évacuation de ceux qui veulent fuir Kaboul. Auparavant, les talibans avaient qualifié toute prolongation de ligne rouge et averti de conséquences pendant que les alliés de Washington insistaient, eux, lors d'un sommet du G7, sur une prolongation, souhaitant davantage de temps pour évacuer. Le respect du délai du 31 août dépend, a prévenu M. Biden, de la coopération des talibans pour permettre l'accès à l'aéroport des candidats au départ, les mettant en garde contre toute entrave à ces opérations difficiles. Il a aussi demandé au Pentagone et au Département d'État des plans d'urgence pour ajuster le calendrier si cela devait être nécessaire. M. Biden a aussi parlé du risque grave et croissant d'une attaque du groupe djihadiste État islamique. Rosine Mounezero nous donnera d'autres détails sur l'Afghanistan. L'ancien président et dictateur tchadien Hissen Habré est décédé du Covid-19 mardi à l'âge de 79 ans au Sénégal, où une juridiction africaine l'avait condamné à la prison à vie en 2016 pour crime contre l'humanité. Nous y reviendrons plus en détail en seconde partie de cette édition avec Abdourahmane Dia et notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar. Au Cameroun, le CICR a annoncé hier qu'un Canadien de 62 ans travaillant pour le Comité international de la Croix-Rouge est mort lundi après une agression la veille à Bamenda, chef-lieu du nord-ouest anglophone, en proie à un sanglant conflit séparatiste. La jeune Guinéenne, diagnostiquée positive au virus Ebola en Côte d'Ivoire, où elle est arrivée le 11 août, en provenance de la Guinée, est guérie de sa maladie, a déclaré ce mardi le ministère ivoirien de la Santé. L'Algérie a annoncé hier la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc voisin, accusant Rabat d'actions hostiles à l'égard d'Alger. John Lydon fera le point. Au Mozambique, un agent du renseignement, Cipriano Mutota, a avoué mardi avoir touché des pots de vin et mis en cause l'actuel président Philippe Nyusi quand il était ministre de la Défense. Il s'agit du premier des 19 accusés entendus dans le procès dit de la dette cachée, un des plus grands scandales de corruption du pays. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a encore déploré mardi les inégalités choquantes d'accès aux vaccins contre le Covid-19 à l'ouverture d'une réunion annuelle virtuelle des ministres de la Santé du continent africain. Dans le monde, 140 pays ont vacciné au moins 10% de leur population, mais sur notre continent, seuls 4 pays ont pu atteindre cet objectif, a-t-il déclaré. L'efficacité des vaccins de Pfizer et Moderna contre l'infection au COVID-19 a baissé de 91% à 66% depuis que le variant Delta est devenu dominant aux États-Unis, selon des données publiées hier par les autorités sanitaires américaines. La lenteur du déploiement de la campagne de vaccination contre le COVID-19 pourrait entraîner une perte de 2 300 milliards de dollars de PIB mondial sur les 3 prochaines années, a calculé une étude publiée ce mercredi. Les pays d'Afrique subsaharienne devraient perdre 2,9% de PIB par rapport aux prévisions, contre seulement 0,1% par exemple pour les pays d'Europe de l'Est. Le président Joe Biden a applaudi mardi l'avancée au Congrès américain de ses deux plans titanesques d'investissement en total de près de 5 000 milliards de dollars dans les infrastructures et les dépenses sociales qui ont surmonté des divisions chez les démocrates. La suite de nos informations. L'Algérie a annoncé ce mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc voisin, accusant le royaume d'actions hostiles à l'égard d'Alger après des mois de tensions exacerbées entre ces deux pays du Maghreb aux relations traditionnellement difficiles. Une décision unilatérale dénoncée comme injustifiée par Rabat. Ces deux poids lourds du Maghreb entretiennent en effet depuis plusieurs décennies des relations difficiles, voire hostiles, John Lydon.
Depuis le départ du colon espagnol dans les années 1970, l'avenir du Sahara occidental est au cœur de la tension entre le Maroc et l'Algérie. Alger soutient les indépendantistes du Front Polisario alors que Rabat, qui contrôle près de 80% du territoire, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le 7 mars 1976, Rabat avait déjà rompu ses relations avec l'Algérie après la reconnaissance par Alger de la République arabe sahraouie démocratique autoproclamée par le Front Polisario. Bien avant cela, dès 1963, année de création de l'OUA, organisation de l'unité africaine, une guerre des sables a opposé les deux voisins. Les relations se sont détériorées avec la marche verte de Marocains au Sahara occidental en 1975. Puis, 8 ans après, le roi Hassan II et le président Chadli Ben Jedid se retrouvent en tête à tête pour un petit dégel suivi de courtes reprises des relations. Quelques années après, le président Lamine Zeroual évoque un pays illégalement occupé en faisant allusion au Sahara occidental. Le Maroc instaure un visa d'entrée pour les Algériens après l'attaque d'un hôtel de Marrakech. L'Algérie ferme sa frontière. Les obsèques d'Hassan II ont semblé rapprocher les deux pays avec une série de rencontres entre le président Abdelaziz Bouteflika et le roi Mohamed VI. En 2011, le Maroc rouvre ses frontières et normalise les relations. Mais en 2020, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental va surchauffer les esprits. L'Algérie dénonce des manœuvres pour la déstabiliser et pointe du doigt Israël. L'État hébreu vient juste de rétablir ses relations avec le Maroc. Le ministre algérien des Affaires étrangères annonce dans ce contexte la rupture des relations avec le Maroc. Pour le moment, aucune réaction de l'Union africaine où sont toujours membres l'Algérie, le Maroc et la République arabe sahraouie.
En Tunisie, le président Kais Saied a prolongé hier jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement décidé le 25 juillet sur la base d'un article de la Constitution qui envisage des mesures exceptionnelles en cas de péril à la sécurité nationale. Il avait aussi limogé le gouvernement en s'octroyant les pleins pouvoirs. Le point avec Nanit Talani.
Le Parlement est un danger pour l'État. Les institutions existantes et leur manière de fonctionner représentent un danger persistant pour l'État, a répété Kais Saied pour justifier le prolongement du gel du Parlement. Il était censé durer un mois jusqu'à ce mercredi 25 août. Mais le chef de l'État a émis un décret prolongeant le gel des activités du Parlement et la levée de l'immunité de tous les députés jusqu'à nouvel ordre. Pour le politologue Slaheddine Jurki, M. Saied prépare le terrain pour prendre des mesures qui pourraient être plus radicales, telles que le gel de la Constitution ou son abolition et la dissolution du Parlement. Il est devenu clair plus que jamais que le président ne veut personne d'autre que lui au pouvoir, estime M. Jurki. Depuis son coup du 25 juillet, dénoncé comme un coup d'État par des juristes et ses opposants, Kais Saied n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé une feuille de route réclamée par plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile.
Les talibans ont confirmé hier qu'ils ne permettraient pas aux évacuations de se prolonger au-delà du 31 août, malgré les demandes occidentales. Ils soulignent aussi que les Afghans les plus qualifiés doivent rester dans le pays. Rosine Mounezero.
Près de 60 000 étrangers et Afghans ont déjà quitté le pays depuis la prise de pouvoir des talibans il y a 9 jours. Des milliers d'Afghans sont toujours massés autour de l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de monter dans un avion pour être évacués. Les Occidentaux ont des avions, ils ont l'aéroport, ils devraient amener leurs ressortissants mais ne devraient pas encourager les Afghans à fuir ni amener avec eux des Afghans qualifiés, ingénieurs ou autres. Nous leur demandons d'arrêter cela car le pays a besoin de leur expertise, a déclaré le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid lors d'une conférence de presse. Quelques heures après, le président américain Joe Biden a réitéré sa décision de maintenir la date butoir du 31 août suite à un sommet virtuel du G7. Dans son communiqué final, le G7 s'est tourné vers les talibans pour leur demander de garantir un passage sûr à ceux qui veulent quitter l'Afghanistan, y compris au-delà du 31 août.
La Minute Éco, John Linden.
En RDC, le ministère chargé de l'industrie doit présenter aujourd'hui le plan d'industrialisation du pays. Une conférence avec des bailleurs de fonds menée par le premier ministre est prévue. Avec ce plan, la RDC espère mobiliser jusqu'à 58 milliards de dollars. Le pays est l'un des rares en Afrique avec le plus faible niveau de réserve d'échange avec 1,3 milliard de dollars en 2020. Le Cameroun se projette dans la relance économique post-Covid par des conférences élargies de programmation budgétaire 2022-2024 adossées sur la stratégie nationale de développement. Selon Financial Afrique, le pays veut mener à terme les 854 projets en cours d'exécution. L'État compte investir au moins 10 milliards de dollars. La livraison des projets liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2022 figure dans ce plan du gouvernement camerounais. Plusieurs centaines de responsables d'entreprises et de gouvernements africains sont réunis depuis mardi à l'hippodrome de Paris-Longchamp. D'après l'agence Ecofin, cette rencontre organisée par le MEDEF a pour objectif principal de renforcer les échanges économiques et les investissements entre pays francophones et plus particulièrement entre les investisseurs français et les pays francophones du continent africain.
Merci John. Et maintenant, les sports avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous. On commence par les Jeux paralympiques. Malgré un allumage à retardement, la flamme paralympique brûle depuis hier soir à Tokyo. Après un report d'un an des Jeux provoqué par la pandémie, 16 jours après la clôture des JO, l'empereur du Japon, Naruhito, a déclaré les Jeux officiellement ouverts derrière son masque blanc dans le stade national de la capitale, privé de spectateurs en raison du huis clos généralisé décrété face à la cinquième vague de COVID-19 qui frappe le Japon. Seuls quelques officiels et les médias ont assisté au spectacle puis au défilé des délégations. Coup d'envoi de 13 jours d'une exposition rare pour les parasports puisqu'une audience de 4 milliards de téléspectateurs cumulés est attendue par le Comité international paralympique. Jusqu'au 5 septembre, 539 médailles d'or vont se disputer entre 4400 para-athlètes, parmi lesquels quelques stars comme le sauteur en longueur allemand Markus Rehm, surnommé Blood Jumper en raison de sa lame de protège en carbone. En football, selon le site de l'équipe, à une semaine de la fin du mercato estival, le Real Madrid est passé à l'offensive mardi soir pour recruter Kylian Mbappé. Le club espagnol a formulé une offre de 160 millions d'euros. Le site sportif souligne que le PSG reste inflexible. L'information avait déjà été annoncée par le site britannique TalkSport et des médias espagnols. Selon l'équipe, le PSG tient à conserver son attaquant français sous contrat jusqu'en juin 2022. Les clubs anglais, eux, ont décidé mardi de ne pas laisser certains de leurs joueurs étrangers disputer les matchs internationaux en septembre dans des pays à fort risque de contamination du Covid pour leur éviter 10 jours de quarantaine imposés au retour par le gouvernement anglais. Selon les règles actuellement en vigueur au Royaume-Uni, toute personne revenant d'un pays de la liste rouge doit impérativement s'isoler pendant 10 jours dans un hôtel choisi par le gouvernement, quel que soit son statut vaccinal. Liverpool avait été le premier à dégainer en informant la fédération égyptienne, pays également sur la liste rouge, qui ne laisserait pas son attaquant Mo Salah à disposition pour les matchs des Pharaons de qualification du Mondial 2022 au Qatar contre l'Angola au Caire et contre le Gabon à Franceville. Dans les pays à risque élevé figurent aussi de nombreux pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil et l'Argentine, qui doivent s'affronter le 5 septembre à Rio.
Merci Bagassi. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Hissène Avré est mort à Dakar à l'âge de 79 ans. L'ancien président tchadien avait été condamné dans la capitale sénégalaise par une juridiction africaine à la prison à perpétuité pour des crimes commis durant ses 8 ans à la tête du Tchad de 1982 à 1990. Reid Brody, l'un des avocats et activistes les plus en vue dans la bataille pour les victimes du régime de Avré, se désole de son décès, mais estime que le combat pour l'indemnisation doit se poursuivre. Joint à New York par Abdourahmane Dia, Reid Brody.
Bon, c'est une réaction d'abord de tristesse pour le mort d'un homme, hein. Même quelqu'un condamné pour les pires crimes. Et en fait, la nouvelle nous a pris, on était justement avec quelques victimes d'Hissène Avré et leurs avocats en train de voir des stratégies pour que les victimes soient enfin indemnisées, qui est le bataille un peu qui reste inachevé.
Pensez-vous qu'il aurait dû être libéré avant sa mort puisqu'il souffrait du Covid, comme le pensent certains?
En fait, d'après les informations par le ministre de l'Intérieur, il n'a pas attrapé le Covid en prison. Il avait été exfiltré de la prison à la demande de sa femme et c'est dans une clinique huppée de la place qu'il a attrapé le Covid. Parce que là où il était en cellule, il était en cellule privée et il n'y avait pas de Covid et tous les gardes étaient testés tous les jours.
D'accord. Alors, pour revenir un peu sur cette question de l'indemnisation des familles des victimes, qu'est-ce qui bloque, si on peut le dire ainsi?
C'est la question de volonté politique, hein. C'est l'Union africaine qui devait mettre sur pied un fonds pour les victimes. Ça n'a pas été fait en 5 ans. Le gouvernement tchadien avait été condamné à payer des victimes. Ça n'a pas été fait. La famille d'Hissène Avré, qui, il faut rappeler quand même qu'Hissène Avré est parti du Tchad avec tout le trésor qu'il a investi pour se protéger et qu'il aurait caché de ses victimes. Et les mécanismes qui devaient chercher cet argent, donc le fonds de l'Union africaine, n'a jamais été mis en place. C'est l'Union africaine et le gouvernement tchadien qui ont tourné le dos aux victimes.
Et vous pensez que ça va être plus compliqué maintenant avec sa mort?
Oui, j'espère que ces nouvelles auront l'effet de rappeler aux gens que ces victimes qui, par leur ténacité et leur persévérance pendant 25 ans, ont pu obliger l'Afrique et le Sénégal à organiser ce procès, que ces héros tchadiens, Souleymane Gengeng, l'avocat Jacqueline Moudena, que ces personnes sont des héros et il faut que leur combat soit reconnu comme tel, au moins avec l'indemnisation qui est leur droit absolu.
C'était l'activiste des droits humains, Reid Brody. De leur côté, les organisations de la société civile et les victimes de répression sous le régime de Hissène Avré ont appris avec surprise et désolation la mort de l'ancien président tchadien. Pour ces organisations, la mort de M. Avré, qui a succombé au Covid pendant qu'il était en détention, doit servir de leçon aux dirigeants africains. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
Décédé à 79 ans au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Avré a été condamné à la prison à vie en mai 2016 pour crime contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires, une juridiction créée suite à un accord entre le Sénégal et l'Union africaine.
Moi, ça ne me surprend pas. Hissène Avré a été condamné à perpétuité. Donc, tout le monde sait qu'un jour à l'autre, Hissène Avré va mourir.
Clément Ndokota Baifuta, président de l'association des victimes des crimes sous le régime de Hissène Avré, l'homme qui s'est battu aux côtés des ONG des droits de l'homme pendant plusieurs années pour obtenir obtenir enfin la condamnation de l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré, dit regretter une chose.
Le regret est que Hissène Habré devait rester vivant pour voir comment les victimes vont entrer dans leur réparation, comment ils vont jubiler. Il est mort, mais ça devrait plutôt interpeller les autorités sénégalaises, les autorités de l'Union africaine et même le gouvernement tchadien pour que le processus sur toute la ligne soit un peu accéléré. Parce que jusqu'à là, les biens de Hissène Habré ne sont pas saisis. Non, mais les victimes ne peuvent pas continuer à se nourrir de promesses. C'est vraiment de l'insulte la plus abjecte.
Ce n'est pas une mendicité, mais une question de droit. Et les victimes attendent toujours leur indemnisation, a déclaré à VOA Afrique Madame Naomi, malade couchée sur le lit.
Il est condamné à perpétuité. S'il est décédé, s'il est vivant, nous on a besoin de notre réparation. Je suis vraiment humaine, mais son décès ne me dit rien.
Pour le défenseur des droits de l'homme, Dobien Assingar, qui faisait partie de ceux qui ont accompagné les victimes dans toutes leurs démarches et ont abouti à la condamnation d'Hissène Habré, la mort d'un être humain ne peut être une occasion de réjouissance.
Nous nous sommes battus pour que chaque être humain soit en vie, y compris Hissène Habré lui-même, mais comme il a causé du tort à la société tchadienne, que nous lui avons porté plainte pour qu'il puisse répondre de ses actes. Mais nous ne l'en voulons pas jusqu'à la mort. Pour nous, toutes les vies humaines là se valent, que ce soit pour Hissène Habré, pour tous ceux qui ont péri dans les geôles de son régime. Nous aurions souhaité que tout le monde soit en vie, et lui particulièrement, afin que tout le port qu'il a créé à la société tchadienne puisse servir de leçon à ceux qui s'y dirigent encore le pays aujourd'hui, parce que nous sommes prêts à recommencer.
Pour Maître Jacqueline Boudéna, avocate des victimes, la mort d'Hissène Habré ne peut pas empêcher le Tchad d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses victimes.
Le Tchad a été condamné solidairement avec les complices d'Hissène Habré à verser aussi des indemnisations aux victimes. Donc cela ne dédouanera ni le Tchad, ni l'Union africaine. Sinon, ça n'a pas de sens. Les victimes attendent d'entrer dans leurs droits le plus tôt que possible.
La commission d'enquête tchadienne a estimé à 40 000 morts sous son règne, dont 4 000 nommément identifiés. Et pour cela, les chambres africaines extraordinaires l'ont condamné à indemniser plus de 70 000 victimes à hauteur de 82 milliards de francs CFA, et le Tchad doit s'exécuter à hauteur de 50%. André Kordouma Dingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Dans le nord du Cameroun, des milliers de personnes ont fui leur village en direction du Tchad voisin après des affrontements entre éleveurs et pêcheurs. Plus de 40 personnes ont été tuées, une cinquantaine blessées et 40 villages incendiés. Un reportage de Moki Edwin Kinzega, relaté par Nathalie Barge.
Un conflit entre éleveurs et pêcheurs a provoqué le déplacement de nombreuses personnes dans des villages du département du Logone-Echari. Les habitants sont réticents à revenir chez eux à cause de la violence persistante dans la région. Midjiawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun.
Les gens ont beaucoup parlé des conflits intercommunautaires. À l'analyse, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'un problème de pêche et d'élevage. Même entre ces communautés-là, il y a des problèmes. Les Arabes sont d'essence éleveurs. Mais entre eux-mêmes, il y a des problèmes de pâturage. Les Mousgoums sont des pêcheurs. Ces problèmes de trous et autres retenues d'eau se posent également avec acuité entre eux. On ne saurait ramener ces problèmes à un problème communautaire.
La semaine dernière, le gouvernement a signalé qu'au moins 11 000 civils ont été déplacés par les affrontements entre les pêcheurs Mosgoum et éleveurs Choua qui se disputent l'accès à l'eau. La plupart ont traversé le fleuve Logone entre le Cameroun et le Tchad. Le député Kamsouloun Abba Kabir, un leader de la communauté Choua, dit que la paix revient progressivement.
Nous déployons sur le terrain pour appeler nos frères qui sont sur place ou bien nos frères de la diaspora qui utiliseraient des communications qui n'encouragent pas, qui ne facilitent pas ce que nous sommes en train de faire, d'être des ambassadeurs de la paix. Il faut que la paix revienne.
Le président Paul Biya a tenu lundi une cinquième réunion de crise à Kousséri, capitale du Logone-Echari. Au cours de la rencontre, il a été signalé que 43 personnes ont été tuées, plus d'une centaine blessées et 40 villages incendiés. Doumbé Hamat, pêcheur et porte-parole des membres de la communauté Mosgoum.
Cette crise a dégénéré ayant un impact considérable sur le plan économique. Il y a eu des pertes en vies humaines, des pertes énormes en matériel, il y a eu destruction des biens. C'est triste. Nous sommes tous attristés par cette situation. Et donc, pour que la paix revienne, et je pense que l'appel est entendu.
Précisant que le gouvernement enverrait de l'aide aux victimes, le gouverneur Midjiawa Bakari a distribué de la nourriture et des matelas à environ 200 personnes déplacées qui sont rentrées lundi. Pour Mamat Bar Marouf, chef traditionnel dans la localité du Logon Birni, les Mosgoum et Choua doivent apprendre à vivre ensemble.
Je voudrais rappeler à toute la population du département du Logon et Chari que nous sommes appelés à vivre éternellement ensemble. Nous sommes liés par l'histoire. Nous sommes attachés par la chaleur humaine.
Mes frères arabes, Mosgoum et même les autres communautés, la paix vaut plus que tout. On ne peut pas bâtir un sultanat, un département ou un pays dans la guerre. Je prie le bon Dieu afin que nos cœurs soient unis.
Les autorités camerounaises ont indiqué qu'elles vont envoyer des représentants du gouvernement, des religieux et des chefs traditionnels au Tchad voisin afin d'encourager les gens à revenir chez eux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la province du Sud-Kivu a suspendu 6 entreprises chinoises engagées dans l'exploitation de minerais. Ces entreprises sont accusées d'exploitation illégale et illicite de minerais. La plupart de ces sociétés opéraient sur le territoire de Mwenga, à une centaine de kilomètres de Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu. Des détails avec Zanem Neti Zaidi à Goma.
Samedi dernier, le premier ministre congolais Samalou Kondé a foulé les sols de Bunia dans les territoires de l'Ituri. Accompagné d'une importante délégation, il a révélé à la presse le motif de sa présence dans la région.
Je suis venu avec une délégation du gouvernement pour faire une évaluation de l'état de siège dans cette province de l'Ituri, mais aussi dans le cadre humanitaire, apporter notre apport. Et donc, nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous avons commencé par un conseil de sécurité où on nous a fait un peu le point sur l'avancement des opérations sur le terrain. Tout cela, c'était d'abord pour récolter des informations qui peuvent nous aider à améliorer la situation ici sur le terrain.
Christian Chaouri, de la société civile de l'Ituri, demeure sceptique quant au résultat de la mission gouvernementale.
Maintenant, la présence du Premier ministre avec certains membres de son gouvernement de l'Union sacrée, dire que ça, c'est ce qui peut être un peu l'assurance. Nous doutons plus parce que nous avions assisté toujours à la présence de ces grandes autorités, mais jusqu'à présent, rien n'a changé.
En lieu et place de visite des membres du gouvernement, ces membres de la société civile préconisent le renforcement des actions militaires pour établir une paix durable dans la région.
Ce qui va faire espérer en Ituri la paix, c'est surtout voir que non, qu'il y a des actions exceptionnelles qui sont en train d'être prises.
Les actions que nous préconisons, il y a d'abord des frappes militaires. Il faut qu'il y ait des actions militaires contre ces rebelles. Il faut qu'il y ait une frappe militaire. Il faut qu'il y ait des opérations stratégiquement militaires qu'on doit mener contre ces groupes pour qu'on les pousse à déposer des armes par force. Il faudrait aussi qu'il y ait directement qu'il y ait des moyens et l'installation de DDRCS dans toutes les provinces afin de pouvoir désarmer tous ces miliciens.
Après l'Ituri, le Premier ministre s'est rendu à Beni, dans le nord Kivu, à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Il s'est adressé à la population. Dans son message, il a appelé la population à soutenir l'état de siège mis en place par le président Félix Tshisekedi pour éradiquer les violences dans la région et a demandé aux jeunes de se désolidariser des nombreux groupes armés. Zanem Neti Zaidi depuis Goma pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel-Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.